Vous écoutez
RMC. RMC After Live Intégrale Coupe du Monde.
Nicolas Jamin.
Salut à toutes et à tous, merci d'être avec nous. 20h07 ici à New York, 2h07 à Paris. On vient de vivre un très bon match de Coupe du Monde. La première grosse affiche entre le Brésil et le Maroc, score final à partout. Saïbari a ouvert le score pour les Marocains, égalisation Vinicius Junior pour les Brésiliens. À mes côtés, Daniel Riolo, salut Dany.
Salut les amis.
Walid Acharchour est là, salut Walid.
Salut Nico, salut tout le monde.
Younes Belhanda également est là, salut Younes. Il arrive dans un instant Younes. Il a suivi ce match, on va débriefer ça ensemble. Gros débrief de ce Brésil-Maroc bien sûr. Je vous rappelle qu'on est également en direct sur After Foot TV et sur la chaîne YouTube de l'After, 32-16 ouvert. Appelez-nous, supporter marocain brésilien, pour débriefer cette affiche, ce choc entre Brésiliens et Marocains. Alors les gars, globalement, avant qu'on entre dans le détail de cette rencontre, dans une évaluation aussi des individualités, globalement, est-ce que vous avez apprécié, aimé le spectacle? C'était la première affiche, cette Coupe du Monde. Certains considèrent qu'il fallait ce match pour lancer la compétition. Est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que vous avez pris du plaisir?
Je ne sais pas si au final, il n'y a pas un peu plus de frustration que de plaisir. C'est équilibré dans le sens où la première période, je pense qu'on a tous été emballés par le début de match des Marocains, qui a été époustouflant, mais qui n'a malheureusement pas duré dans le temps. Une équipe qui s'est essoufflée assez vite, je pense, 25e, je sais pas à quel moment il faut l'évaluer précisément, je dirais entre 25e et 30e, mais c'était vraiment impressionnant. On avait l'impression que les Brésiliens ne servaient que de sparring, c'était des pantins, tant les Marocains étaient à l'aise techniquement, tactiquement, le bloc haut, le pressing, la récupération, il y avait tout, les joueurs, on aimait tout de ce Maroc. Ils se sont éteints. Le Brésil est sorti timidement. Je crois qu'au final, ils ont un XG qui est en dessous de 1, c'est dire le peu d'occasions qu'ils ont eues. Il y en a deux ou trois, et dont celle de Vinicius, qui sur un exploit personnel a permis l'égalisation. Mais derrière, le match, il a plus existé. Deuxième mi-temps, moi j'ai trouvé ça pauvre, ennuyeux. On avait même le sentiment que les deux équipes avaient l'air de dire « Bon, écoutez, on s'est un peu emballé en première, nous on a eu peur, vous vous êtes vu beau. Si ça se terminait sur un partout, c'est bien ou pas bien ?» Bon, mais finalement, ça s'est terminé comme ça.
Bon, Walid.
Non, je suis d'accord avec Daniel. Moi, j'ai été emballé par la pression marocaine sur la première demi-heure jusqu'au cooling break et à l'action individuelle de Vinicius. Et après, derrière, en deuxième mi-temps, on a eu deux équipes qui se sont un peu regardées en se disant « Bon, bah, un match nul, ça nous convient. On va aller s'expliquer contre Haïti sur le goal à Verage pour aller chercher la première place contre l'Écosse. » Et on se fait ce petit premier match où il y a même eu une revue d'effectifs, je trouve, sur la fin de match avec des changements en pagaille des deux côtés. Donc première mi-temps, ouais, très haletante, surtout avec une équipe marocaine qui moi m'a vraiment conquis dans le jeu et dans le contenu.
Le mystère restera de savoir pourquoi ça a duré si peu.
Voilà. Enfin, si peu. Après, moi, je trouve que quand même faire 25 minutes comme ça face au Brésil où tu les tournes.
Oui, mais revoir même dans la deuxième mi-temps, oui. Revoir une bonne séquence.
Après, il y a eu des changements tôt quand même de la part de Wahbi avec la sortie d'Ounaï, la sortie de Brahim Diaz.
J'ai été étonné des changements tôt
et on se rend compte que même le Maroc qui fait figure d'outsider dans cette compétition regarde peut-être sur la durée de la compétition.
C'est ça l'information.
Je trouve que c'est intéressant. Mais oui, moi je trouve que l'emballage Coupe du Monde Brésil-Maroc avec la combinaison de la première mi-temps, la star Vinicius du Brésil, qui met un super but, le collectif marocain. Je suis rentré dans ma Coupe du Monde sur la première mi-temps. Après, c'est vrai qu'on termine un petit peu fanny avec ces 10 minutes de temps additionnel là, et puis les cooling break en pagaille. C'est vrai qu'il y a des choses moi qui me dérangent un petit peu.
Il faut dire la vérité. Ouais. Au bout d'un moment,
ça me tue le match, petit à petit,
c'est en train vraiment de devenir saoulant. Au début, on se dit bah allez, on va s'adapter, on va dire allez, de toute façon, ça fait tellement longtemps qu'on était préparé et que ça nous saoulait qu'on a démarré la Coupe du Monde en se disant allez, c'est bon, on accepte. Là, au bout du troisième, quatrième match, ça m'a saoulé.
Ah oui, mais
je suis gavé parce que
les 10 minutes de retard au début du match, la mi-temps, j'ai l'impression qu'elle dure 30 minutes.
On se rend compte que ça, mine de rien, c'est une donnée nouvelle. Je ne sais pas ce que les entraîneurs en font, mais en tout cas, clairement, ça peut casser le rythme d'un match. Ça peut casser ce qu'ils appellent les momentum, là, les moments forts d'une rencontre. Clairement, ça peut permettre un ou deux réajustements. C'est une nouvelle donnée dans le football.
Nous,
devant la télé, c'est sûr que ça correspond à un moment saoulant parce que forcément, on se tape la pub. Donc, ça te fait sortir du match parce que la pub, tu n'étais pas habitué dans une mi-temps. Des fois, tu mélanges, tu dis, attends, c'est la mi-temps, c'est quoi et tout. Peut-être qu'au stade, c'est vécu un peu différemment. Je l'espère. Ah,
mais c'est une autre manière de regarder le football. Hein.
Ouais, bien sûr.
On le regarde en 4 temps. Et puis moi, je veux même te dire, dans la réalisation.
Ça nous sort du match, nous aussi d'ailleurs.
Ouais, et tu reprends ton téléphone, etc.
Ça nous sort du match.
Dans la réalisation, on devrait avoir normalement, vu que là, c'est la FIFA, la Coupe du Monde, etc., les ajustements des coachs. Parce que c'est aussi intéressant dans l'analyse, parce que moi, je sens que Ancelotti change quelque chose sur les positions, notamment entre Rafinha et Vinicius, après ce cooling break. Et plus on va avancer dans cette compétition, plus l'importance des coachs vont être importante. Parce que sur les 20 premières minutes, mais le Maroc... Mais il y a pas photo
c'est
entre
une démonstration
les...
de football.
Ce qu'ils font, c'est une leçon de football.
Alors, on va y revenir dans un instant. Younes Belhanda arrive. D'abord, on va aller à Paris, le Grand Rex. Le match était diffusé avec des centaines de supporters marocains. Camille Borin est sur place. Camille, raconte-nous la soirée et surtout le sentiment des supporters du Maroc.
Alors Nico, des centaines, des gentils, des milliers, ils étaient 2500 ce soir au Grand Rex. Donc je peux te dire que ça a donné de la voix. Je suis avec Najib. Najib, comment t'as vécu toi cette soirée?
Ben, une soirée exceptionnelle, en sachant que le Maroc, ben, c'est très très bien défendu. Et après, c'est un peu dommage. On se contente du match nul. Pour nous, ben, on prend ce qu'il y a à prendre. Mais maintenant, il reste l'Écosse et Haïti. En sachant que ben, c'était le 6e contre le 7e mondial. C'était un match de prestige. Je crois que c'est le premier match de la Coupe du Monde où deux grosses équipes s'affrontent en direct. Pour info, je suis coach aussi de foot. Donc moi, j'ai beaucoup aimé la stratégie des deux équipes. Le bloc bas pour le Maroc. Et bon, après, il y a eu du jeu, certes. En deuxième mi-temps, c'était un peu plus haché. Mais Pierre des Lions du Maroc, je pense qu'aujourd'hui, en Coupe du Monde, il y a beaucoup de gens qui vont regarder ce match en disant ben, que ça peut être un outsider, qui peut aller beaucoup plus loin. On ne va pas s'enflammer aujourd'hui. On va attendre les deux autres matchs, tranquillement. En tout cas, je suis très, très fier de la jeunesse, surtout de Bouadi, de toute l'équipe en général qui sont... On voit une nouvelle génération qui commence à naître et ça promet pour le football marocain de demain et je suis fier du Maroc et je continuerai à les suivre, à être passionné comme je le suis aujourd'hui.
Et alors je vais poser la question à Noé. Noé, comment ça s'est passé toi, l'ambiance? Comment t'as vécu là, ce match avec 2500 supporters? On se croyait au Maroc en fait.
Ouais, c'était incroyable, franchement c'est un des meilleurs moments de ma vie. Au début je croyais que j'allais mourir. J'arrivais plus à respirer, j'étais sous pression, tout ça, et quand ils ont marqué, comment j'ai crié dans l'ambiance de la salle, était énorme, c'était phénoménal, franchement, c'était l'un des meilleurs moments de ma vie. Après, quand ils ont marqué, franchement, on s'est un peu baissé, mais on n'a pas arrêté de dire quoi. C'était un match de fou, quand même, c'est une dinguerie, quand même.
Voilà, un match de fou, messieurs, on s'en souviendra de cette soirée au Grand Rex. Hein.
Merci Camille Borin en direct de Paris. On s'en souvient bien sûr l'émotion, la fierté.
C'est là qu'on voit que l'émotion parfois submerge un petit peu tout, parce que dans la deuxième mi-temps quand même, les Marocains sont pas créés d'occasion. Mais c'est vrai que leur début de match est tellement en ballant que si je suis supporter du Maroc, encore une fois, je repose la question sur la durée. Pourquoi tu n'as pas pu maintenir ce rythme-là, en tout cas au moins un petit peu plus? Et qu'est-ce que tu vas faire de cette domination? Qu'est-ce que tu vas faire de cette démonstration de football? Est-ce que ça va te donner de la confiance? Est-ce que le coach va dire il va falloir qu'on essaye d'être encore plus maître de notre match parce qu'on a des qualités, clairement? Moi, à un moment, je me suis quand même demandé...
Je te donne la parole, mais Younes est là.
Il vient d'arriver.
Salut Younes, Younes Belhanda. Ça va Younes?
Salut Younes.
Bon. Ça va et vous? Daniel, dans un instant, je te rends la parole, ça va très bien. Est-ce que tu as aimé la prestation du Maroc ce soir? Le match globalement, mais la prestation du Maroc, ce qui est sûr, et c'est une confirmation, le Maroc ne nourrit plus aucun complexe face à une sélection comme le Brésil.
C'est ça, on l'avait dit juste avant. Ils ont gagné ce respect d'être là et d'être pris à leur juste valeur. On l'a vu sur la première mi-temps où ils ont complètement dominé le Brésil. Il y a eu une faute de position, je crois, de Achraf Hakimi où il laisse Vinicius. Ça m'est resté en travers de la gorge. On connaît Vinicius, hein, il a des éclairs de génie. Mais sur la première mi-temps, le Maroc a complètement dominé. Mais sur la deuxième mi-temps, c'est vrai que voilà, le rythme a un peu baissé et le Brésil s'est montré mieux qu'en première mi-temps. Je pense que c'est dû au changement qu'a fait Ancelotti avec l'entrée de Fabinho qui a été magnifique.
Je suis d'accord. Et Danilo, parce que
Fabinho, il a complètement géré tout le milieu de terrain.
Est-ce qu'on peut s'arrêter deux secondes là-dessus et vous allez me donner votre avis? Est-ce que ce qu'a surtout apporté Fabinho, et là où j'ai trouvé qu'à un moment, quand le Maroc baissait, l'impression visuelle que j'avais, c'était que dans l'impact physique, le Brésil s'était remis à niveau et était en train de faire mal au Maroc, et que c'est peut-être pas techniquement, mais physiquement, que les Brésiliens, avec de la puissance, ont mis plus d'impact et ont empêché les Marocains de jouer et de poursuivre la démonstration qui était la leur dans les premières 20-25 minutes qui nous ont tous régalés. Est-ce que vous êtes d'accord avec avec ce point,
Younes?
Ah oui, complètement. Dans tous les cas, dans le milieu de terrain, en première mi-temps, le milieu de terrain brésilien, il a été submergé par le milieu de terrain marocain, hein, que ce soit défensivement, offensivement, avec le ballon. Ils n'arrivaient pas à ressortir le ballon, les Brésiliens, en première mi-temps. Ils ont eu beaucoup de mal, beaucoup de pertes de ballons, où le Maroc a récupéré assez beaucoup de ballons facilement. Et en deuxième mi-temps, c'est ça, avec Fabinho, l'entrée de Fabinho dans l'impact physique et dans la ressortie de ballon, avec la qualité de passe qu'il a et comment il est serein avec le ballon, et ben franchement, il a changé le match du Brésil.
Hein. Ouais, Fabinho qui est en train de jeter la 46e dès la mi-temps.
Moi, j'aurais aimé que changer la face du Brésil, ça se fasse sur le plan technique. Moi, je suis quand même sidéré, quand même, que le Brésil, ce soit physiquement, dans l'impact physique qu'ils ont repris vie dans ce match.
Enfin, moi, il n'y a pas que physique,
c'est
parce que pour
le Brésil, quoi.
Il n'y a pas que physique, parce que pour moi, Danilo et Fabinho t'amènent une sérénité technique que Ibanez et Casemiro n'avaient pas du tout sur la première mi-temps. Et encore une fois,
tu les as trouvés à l'aise avec les Brésiliens ce soir?
Moi, non.
Dans l'équipe en général?
Non, pas tous, bien évidemment. Si tu regardes ce qui se passe dans les tribunes avec Roberto Carlos et R9, et que tu te rappelles de...
Il y avait Kaka aussi.
Voilà, ou Kaka de ce qu'ils étaient, bien évidemment, tu pleures du sang, parce que quand tu vois Igor Thiago.
Mais c'est ça qui est.
Bien évidemment. Maintenant, moi, je parle de, on parlait quand même du changement dans de physionomie de match, et ça va avec les changements de
Carlo Ancelotti. Fabinho, il a fait le ménage d'un coup.
Maintenant, j'aimerais quand même insister sur le Maroc, parce que moi, j'avais trouvé que sur l'avant-match, on s'emballait un petit peu sur le Maroc, parce qu'il fallait voir. Il fallait voir sur ce match-là. Et moi, j'ai vu. Parce que, bien évidemment, qu'on a cette demi-finale de Coupe du Monde en 2022, mais on a quand même un nouveau coach qui vient d'arriver, avec des nouveaux joueurs qui n'étaient pas là en 2022, notamment. Et moi, j'attendais de voir comment l'événement allait être digéré par certains joueurs, et puis même collectivement. Et moi, le démarrage du Maroc m'a complètement bluffé, et je le dis, même sous Walid Regragui, ça jouait pas aussi bien au football. Moi, sur les 25 premières minutes.
Les premières 25 minutes qu'on a vu là, je les avais pas vues du Maroc.
Mais moi, on avait vu le Maroc avec une grosse intensité à la CAN, une récupération très très haute.
Là, on était justement en train de parler, je faisais la distinction l'autre soir, je disais, le Maroc, il va falloir voir contre une équipe standing mondiale.
Exactement, mais c'était une équipe en 2022 qui était quand même globalement attentiste.
Absolument, c'est ce que j'ai dit.
Qui s'adaptait.
Le Maroc a plus de jeux là en une demi-heure que sur l'ensemble de la Coupe du Monde 2022.
La première demi-heure qu'ils font, où ils les tournent un par un au milieu de terrain, les Ounaï, les El Khanous, les Bouadi, etc. J'ai été bluffé.
Bouadi, on est d'accord, c'est le meilleur mec du.
On va prendre le temps, on en parlera après.
Mais moi, je pense que le Maroc envoie un vrai message dans le deuxième chapeau, sur la première demi-heure, un vrai message.
Mais j'ai envie que ça dure.
D'un candidat crédible à au-delà des années. Non, mais il fallait le montrer.
Oui, la difficulté maintenant, c'est que cette demi-heure-là épouse tout flanc du Maroc. La plus grande difficulté, c'est de la prolonger sur des gros matchs de Coupe du Monde. Qu'est-ce que t'en penses?
Tu pourras pas faire une deuxième mi-temps sans avoir une seule occasion.
Exactement. Ils ont pas été à fond. Moi, la deuxième mi-temps, elle est pas à fond, je pense.
Est-ce que c'était si pensé? Est-ce qu'il y a pas de jeu comme ça pendant une heure?
C'est le Brésil, hein, les deux prochains matchs seront un peu moins difficiles, que ce soit.
Non, mais on se projette sur l'après, parce que le Maroc va passer la phase de poule sans problème.
Pour moi, il passe le groupe, donc c'est après que j'ai envie de voir tout ça, quoi.
Ce sera des matchs à élimination directe, ça sera un jeu de stratégie après, hein, ça, tu pourras pas toujours attaquer ou faire le jeu. Il y a des moments, on l'a vu dans le match, où le Maroc a été dominateur. En deuxième mi-temps, où le Brésil a eu la domination du ballon, où ils ont créé 2-3 occasions, pas nettes, mais quand même, qui sont montrées un peu plus dangereux que le Maroc. Mais ça me fait pas peur sur la suite de la compétition, parce qu'il y a les joueurs pour, ils ont le coffre pour, physiquement ils sont prêts. Il y a beaucoup de joueurs aussi sur le banc qui peuvent rentrer, comme on a vu Talbi, El Mourabet qui a fait une entrée un peu timide, mais qu'on sait très bien, c'est un très bon joueur de ballon.
J'ai pas vu si je jouais
numéro 10, ce deuxième attaquant.
Je le vois un peu plus bas. C'est dur de les bouger. Mais j'aurais peut-être gardé Brahim Diaz un peu plus longtemps.
Il a sorti un peu trop tôt, je trouve.
Et c'est là la frustration, parce qu'il y avait un coup à faire. Mais bon, je pense que le résultat reste positif. Et le Maroc et Wabi
sort renforcé de ce match-là. Parce que sur la première mi-temps, t'as pas Abdé qui était le dynamiteur sur les derniers matchs. Abdel Zalzouli. Et je trouve qu'Elkhanou, ça fait, a fait un super match. Que le choix faux numéro 9 avec Saïbari, bah, il est gagnant en transition avec le but qu'il met sur l'ouverture du score. Que dans la maîtrise, dans l'esthétisme proposé par le Maroc, tu sors renforcé. C'est quand même le premier match de Coupe du Monde de Wabi. Moi, je trouve que c'est une entrée en matière de grande qualité.
Je vais poser la question franchement à Daniel, à Younes et à Walid. Est-ce que, après ce qu'on a vu sur ce duel, sur l'impression donnée par le Maroc, est-ce que vous en faites désormais un gros outsider pour une victoire finale? Osons la question quand même. La route est longue pour tout le monde, bien sûr. Ça va se jouer sur les détails, sur les matchs élimination directe.
Victoire finale.
Est-ce qu'aujourd'hui, le Maroc est un candidat pour au moins un dernier carré?
Impossible de répondre à cette question tant que j'ai pas vu tout le monde. Moi, une fois qu'on aura vu tout le monde et que cette phase de poule, elle va être interminable, avec beaucoup de matchs où on va probablement tirer des enseignements faux, parce que le Maroc, c'est ce soir, parce que moi, le Maroc contre Haïti, ça vaudra rien du tout. Le Maroc contre l'Écosse, je sais pas bien ce que vaut l'Écosse, c'est un autre type de football. Oui, mais c'est un autre type de football, c'est un football où ils vont leur rentrer dedans.
Ils sont favoris.
Ils vont être favoris. En fait, il va falloir voir comment le Maroc va se proposer dans toutes les configurations qui vont s'offrir à elle. C'est ça en fait. Moi, je crois que c'est hier quand on en parlait, je disais la mutation déjà du Maroc entre jouer la CAN avec l'attente, en devenant une équipe protagoniste, parce qu'elle n'était pas forcément en 2022. On avait compris l'évolution, ça s'était bien passé. Là, il y a le Brésil, ça marche, je suis absolument convaincu, mais 25 minutes. Pourquoi ça n'a pas duré plus longtemps? Est-ce qu'on veut déjà économiser ses forces? Est-ce qu'on est capable de maintenir un rythme élevé sur une durée de match? Parce qu'en fait, au final, à la fin, quand il y a la passe en retrait de Vinicius, sur la frappe, là, sur une des actions, qu'est-ce qu'on dit si le Brésil braque le match?
Ah, bah, il y a une grosse erreur d'Issa Diop.
Voilà.
Et on dit que c'est un braquage. Voilà. Globalement. Parce qu'il n'y a pas eu d'énormes occasions du Brésil. Moi, j'ai pas senti le Maroc véritablement difficulté défensivement. Bien. Parce que c'est un rapport de force, hein. Ils jouent quand même une équipe.
Mais en fait, la nouvelle identité du Maroc, est-ce qu'elle est sur les 25 minutes? Parce que 25 minutes, c'est pas 90, c'est un tiers de match.
T'as raison.
Est-ce qu'ils sont capables de reproduire ça? Ce que j'ai adoré, est-ce qu'on va le revoir plus longtemps? Donc c'est voilà, on est encore loin du compte. On est dans le premier match. Okay. J'ai pas encore vu les Pays-Bas, j'ai pas vu l'Allemagne, j'ai pas vu la France, j'ai pas vu le Sénégal dans le match, j'ai pas vu l'Angleterre,
Portugal,
tout ça est très,
mais Daniel,
très long.
L'info c'est que sur une demi-heure, on n'avait jamais vu une demi-heure du Maroc comme ça depuis très longtemps, voire jamais. Et ça c'est une première information.
C'est une candidature, ils sont venus à l'accueil.
Voilà.
On va voir la suite, mais c'est crédible.
Certains diront que le Brésil n'est pas non plus forcément convaincant. Et que peut-être qu'il a laissé aussi la place
dans la boîte de nuit des bonnes équipes. Aussi, je suis le physio, je dis c'est bon, rentre.
Younes,
il y a pas de problème, tu peux rentrer.
Non, c'est par rapport à l'adversité, ça va être l'adversité qu'il va y avoir, que ce soit le groupe de la France, l'Allemagne, l'Espagne. Ce soir, c'est un gros calibre qu'a joué le Maroc. C'est un qui sont favoris au carré final. Donc pour moi, ce qu'ils ont démontré ce soir le Maroc, c'est un gros message qu'ils ont envoyé, parce qu'ils sont capables de faire le jeu, de faire du contre-pressing. Ils ont réussi à le montrer sur les 25 minutes. Bien sûr, j'aurais voulu le voir plus longtemps dans le match, mais il y a des fois où l'adversaire te contraint à être plus bas ou à laisser un peu le ballon à l'adversaire. Moi, j'aurais dit que le Brésil laissait le ballon au Maroc et qu'il partait en contre en jouant en transition, le Brésil aurait tué le Maroc. Mais ils ont essayé aussi des fois de faire le jeu. Et surtout sur la première mi-temps, hein, on a vu qu'ils n'arrivaient pas à ressortir les ballons avec Casimiro. Ils ont perdu beaucoup de ballons. Mais ce qu'ils ont envoyé le Maroc ce soir, c'est un bon message, et surtout on a pris du plaisir à les voir jouer comme ça.
Exactement. Alors les gars, on va entrer dans une évaluation longue de ce match, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur pas mal d'individualités.
Sur le Brésil surtout.
Brésilienne et marocaine. D'abord, on va parler du Brésil. Ouais. D'abord. Quand même, on est sur YouTube en direct également, vous le savez, avec le chat qui est ouvert. Vous êtes 5000 en direct sur YouTube.
Ah ouais.
À 2h30 du matin. Voilà. C'est incroyable. Ça. Je pense qu'il y a un effet Belanda. C'est Younes quand on l'a teasé aujourd'hui.
Ah oui, 2h30 du matin.
Ah, Younes sera là. On a
se dire que c'est en France, c'est la nuit.
Après, 2h30 du matin.
Après Nico, t'as
on a 5000 visionnages.
Après Nico, t'as un gros trio là quand même.
j'ai un casting de rêve.
T'as un gros trio.
J'ai un casting de rêve.
Sur le Maroc-Brésil, c'est pas n'importe quoi.
En revanche, les gars. C'est pas comme le Maroc, vous avez été bon pour l'instant.
Oui.
Prolongez aussi la qualité jusqu'au bout.
Oui. D'accord. Après, le problème, c'est qu'on va pas sortir Brahim Diaz et Unai entre temps, donc ça va aller, je pense.
Bon.
On va garder la cadence.
Alors, on y va. Il y a un nom qui ressort du chat. Hein. On va le faire, un pêle-mêle. Hein, Brésilien, Marocain, on va mixer tout ça sur les évaluations. Quel est votre homme du match? Commençons comme ça. Quel est votre homme du match, Younes? L'homme qui t'a fait la plus grosse impression ce soir dans ce Maroc-Brésil?
Alors pour moi, je vais dire Boadi, parce que la jeunesse, il a montré tout son talent, son calme, et sa première Coupe du Monde. Des fois, il m'a fait frissonner parce qu'il prenait quelques risques défensivement, mais je le voyais repartir serein avec le ballon. Il a coupé énormément de passes, il a récupéré énormément de ballons. J'aurais aimé le voir se projeter encore plus vers l'avant, parce qu'il a une qualité quand il part avec le ballon de vitesse. C'est franchement, pour moi, il a tout fait ce soir, donc je le mets homme du match ce soir.
Vous êtes d'accord ou pas, Daniel?
Oui, je suis d'accord. Un joueur de 18 ans qui arrive pour sa première compétition il y a 2 mois, il savait même pas qu'il jouerait la Coupe du Monde pour le Maroc, s'imposer comme ça véritablement en patron, parce que son comportement au milieu de terrain, au-delà de sa technique, on le sait, on le suit à Lille, il a déjà fait des matchs de Ligue des Champions, on sait que c'est un bon joueur. S'imposer comme le patron au milieu de terrain, c'est vraiment encore une évolution considérable pour lui. J'ai toujours beaucoup aimé ce joueur. Dès les premières fois, on l'a vu. C'est mon football. Je pense que c'est le football de tout le monde. C'est les milieux de terrain qu'on aime, tout simplement. Et moi, j'ai évidemment beaucoup aimé son match. Encore une fois, vraiment, on adore le Maroc, mais il va quand même falloir parler du Brésil, parce que c'est une nation historique du football. Et moi, ce qu'il me propose au milieu de terrain, pour moi, c'est pas possible. Parce que ce que je vois de Boadi, je veux bien le féliciter pendant 1000 ans, Boadi, je l'adore. Mais normalement, ce genre de joueur, il y en a aussi au Brésil. Et là, je sais plus où ils sont, quoi. Je sais pas où ils sont, quoi.
Après, pour rester sur Boadi très rapidement, tu l'as dit, Daniel, le contexte, faut parler du contexte. Ça fait 1 an que tout le monde dit quelle sélection il va choisir entre l'équipe de France et le Maroc. Il choisit le Maroc, c'est sa première compétition. T'as l'impression que ça fait
la bien fait. Il a très bien fait d'y aller.
Et t'as l'impression que ça fait la quatrième qu'il a derrière sur la première mi-temps. Incroyable. Il a été monstrueux dans les duels, dans la qualité technique, dans la sérénité,
la tranquillité,
dans le leadership. C'est un mec qui à 16 ans a fait un énorme match contre le Real Madrid et à 18 ans contre le Brésil. Premier match, c'est quand même. Moi, je regardais sur la première mi-temps, il avait 2 mi-temps au compteur au Maroc. 2 mi-temps. C'est lui qui distillait les consignes. C'est lui qui faisait les replis défensifs. C'est lui qui voilà. Il a tout dans son football pour être l'un des meilleurs 6-8 du monde. Il a 18 ans.
Et pour probablement être dans un très grand club.
Je regardais un petit peu ce qui se passait dans quelques semaines. Je regardais ce qui se passait dans les tribunes avec Nasser El Khelaïfi, mais si je suis à sa place, mais je le capture.
Combien ça coûte?
Je sais pas.
Là, il a pris 15 millions ce soir.
Je pense qu'il a pris des millions d'euros ce soir. Mais aujourd'hui, j'appelle Olivier Létang très rapidement. Je vais voir son agent très rapidement.
Je sais pas quel est le prochain match du Maroc,
mais il faut ficeler le transfert au PSG.
Plutôt que Nasser et Olivier Létang sont souvent ensemble dans les conseils du stade ou dans un palace à Manhattan.
Luis Campos qui dit souvent qu'il veut franciser le projet. Mais là, il est francophone, il est pas français, il est marocain. On l'a vu en Ligue 1. Faut absolument que Boadi aille au Paris Saint-Germain.
Bon, Younes, ça vaut combien pour toi, Boadi? C'est inestimable. 18 ans, il aura 19 ans.
C'est inestimable. À cette heure-ci,
c'est inestimable. C'est un Picasso, là.
À 18 ans, de faire ce qu'il a fait. Non, mais moi, c'est le calme et la sérénité qu'il a dégagé. On aurait dit qu'il avait 30 ans, le petit. C'était extraordinaire. Le calme, la sérénité, tout le monde, on dirait que tout le monde s'arrêtait autour de lui. Et on le laissait jouer, mais c'était extraordinaire à voir.
Et on écoutait, Younes, nous on écoutait le match sur Fox là. Les mecs, ils parlaient de lui, mais sur la deuxième mi-temps, ils étaient époustouflés. Parce que moi,
Walid, il comprend tout, évidemment. En une semaine, il est arrivé. Ça veut dire que hello, goodbye. Aujourd'hui, il est fini.
Maintenant, je suis bilingue.
À un moment, le commentateur, il a dit 18 years old. Il a fait, il parle de Boadi. 18 years old.
Et derrière, il en a fait tout un commentaire. Voilà. Il disait, à chaque fois, il disait 18 ans. À chaque fois, il disait amazing, Boadi, etc. Il s'arrêtait sur le joueur à chaque fois. Mais c'est vrai que c'était facile à traduire, Younes.
En tout cas, c'est vraiment remarquable. Les progrès en anglais de Walid en trois jours, c'est.
On vous prévient, à Paris, quand il va rentrer, c'est plus le même.
Mais quand vous me voyez pas au tennis ou sur Manhattan, c'est parce que je prends des cours dans la chambre.
Wall Street Institute.
Bien sûr, les gars.
Walid Institute.
Bien évidemment.
Exactement.
Bon. Un bosseur, Walid.
On fait une pause rapide, très rapide. On est au cœur de la nuit sur RMC. On est heureux, vous êtes extrêmement nombreux à nous suivre en direct sur YouTube et également sur After Foot TV. Regarde la caméra, elle est là, Walid. Faut saluer tous ceux qui veillent encore. C'est le point rouge, là, tu vois. Il y a un point rouge. Ouais. Voilà, là, on te regarde. Ouais. Dans un instant, on revient avec Daniel, qui regarde, qui admire la vue de Manhattan. Là, il y avait un coucher de soleil superbe sur les tours de Manhattan, la skyline. Dans un instant, on revient.
Les gens qui sortaient du stade.
Avec Younes Belhanda, avec Daniel Riolo, avec Oueda Cherchour et Jean-Louis Tour, qui est encore au stade pour les premières réactions des Marocains et des Brésiliens en direct sur RMC. C'est une grande soirée after foot, intégrale Coupe du Monde. Et puis, je vous rappelle également que reste avec nous parce que ça va jusqu'à 5h du matin. Le débrief sera prolongé après avec une autre légende du foot marocain. Mustapha Hadji sera là sur RMC cette nuit. Reste avec nous, on revient dans quelques secondes. A tout de suite.
RMC After Live, intégrale Coupe du Monde.
Nicolas Jamin.
Daniel Riolo est là, Oueda Cherchour également, Younes Belhanda pour le débrief de ce match nul entre le Maroc et le Brésil, le premier choc de ce mondial, un but partout. Il est 2h34 du matin à Paris, il est 20h34 ici en direct à New York. Homme du match, tout le monde est d'accord pour parler de Ayoub Wadi. Parlons quand même collectivement aussi du Brésil, l'impression qu'elle vous a faite cette équipe. On a imaginé une projection Maroc dans cette Coupe du Monde. Est-ce que ce Brésil ressemble à ce que vous imaginez, avec ses carences, avec ses qualités également, globalement?
Alors, le Brésil, on est d'accord qu'on est dans une autre catégorie par rapport au Maroc. C'est que le Brésil, quand tu parles de Coupe du Monde, en tout cas dans leur pays, ils attendent une équipe conquérante.
Daniel, c'est important, Vinicius en direct, avec Jean-Louis Tour.
Alors, Vinicius, on peut écouter.
Sabia que ia ser um jogo complicado por ser a estreia, por ser contra o Marrocos, onde é uma equipe que joga junto há muito tempo, chegaram na final.
É mais complicado com o Maroc, que joga extremamente bem.
Seu valor, a gente precisa melhorar para ganhar os próximos jogos.
Vini, João Paulo Capelanes da Band, da Rádio Bandeirantes. Aí já percebe que boa parte da crítica vai em relação às escolhas do Ancelotti. Ele optou por mais jogadores experientes do que jogadores jovens. Você, por ser jovem e ter resolvido no lance individual, e a gente percebeu que você ficou muito isolado no jogo. Faltou vitalidade,
pegada,
gente mais jovem para poder ajudar vocês.
A questão é interminável.
Ah, não acredito nisso. Eu acho que a gente tem que se adaptar com os jogadores que a gente tem aqui.
Vous avez entendu la voix, le ton des réponses de Vinicius. On va reconnaître qu'on est dépassé, on est battu là.
Je pensais que Jean-Louis allait tout assurer.
Jean-Louis qui parle espagnol, je me suis dit peut-être qu'il va réussir.
À part trois mots en espagnol,
on a quand même compris. Voilà. Évidemment, un match compliqué. Le Maroc est une très bonne équipe. Voilà. Oui, Jean-Louis, on est là.
J'étais en train de traduire là, mot pour mot, là, on n'a rien raté. Vous m'avez pas entendu, c'est dommage. J'avais tout.
Nous, on t'a pas entendu, nous, en tout cas.
Il est bon.
J'avais tout.
Il est bon.
C'est pas grave. Hein.
Bon, t'as chopé une phrase ou deux quand même ou pas, non? Rien? Pas trop?
Ouais. Écoute, ils sont contents d'avoir tenu tête à... Enfin, ils n'ont pas été surpris parce qu'ils savaient que c'était une très bonne équipe, le Maroc. Ouais. Mais à ce point-là, ils leur ont posé quand même beaucoup de problèmes. Et ils disaient, on savait quand même avec leur statut de finaliste de la CAN qu'il fallait les prendre au sérieux. Ben, on a eu la confirmation sur le terrain.
De finaliste, voire de vainqueur officiellement de la CAN pour
champion
l'instant.
De la CAN. Comme on n'est pas sûr des propos et de la trade, je vais m'abstenir de commenter. 100%.
Je pense qu'on n'a pas manqué grand chose non plus. Voilà. Parce qu'il n'y a pas une déclat fracassante. Hein.
Donc, le
Brésil.
Vu du Brésil, quand ils entament une compétition, c'est pour aller le plus loin possible, voire gagner. Ça a toujours été l'état d'esprit de ce pays et c'est comme ça qu'ils voient le football. Moi, sur ce que je vois ce soir, si demain on me dit cette équipe-là va gagner la Coupe du Monde, je crois pas la personne qui me le dit. Ce n'est pas envisageable. Je ne comprends pas comment l'équipe joue. Je ne comprends pas le positionnement de tous les joueurs. Je ne sais pas si le milieu de terrain, bon, dorénavant, moi, imaginez que c'est celui-là. Bon, ok, donc Fabinho, Guimarães, Paqueta. Si tu gagnes une Coupe du Monde avec ce milieu-là, bon, ben, ok, très bien. Rendez-vous le 19 juillet, mais je ne peux pas y croire. Les latéraux, je n'y crois pas non plus. La défense centrale, bon, bah oui, Gabriel, c'est mieux quand c'est avec Saliba. Voilà, mais bon, je découvre pas l'Amérique en disant ça. Devant Vinicius, bah oui, dans chaque match, il pourra prendre le ballon et faire la spéciale. Je dribble, j'accélère, je rentre et je frappe. Combien de fois ça va marcher, j'en sais rien. Rafinha, j'ai pas compris où est-ce qu'il était positionné. Devant, bon, peut-être ils ont si t'as besoin d'un déménagement et tout ça, tu peux peut-être prendre le gars qui jouait neuf là.
Igor Thiago.
Dans ce match. Mais sinon, honnêtement, je sais pas ce que ça fait dans une équipe du Brésil. Je suis au-delà déçu par la prestation de l'équipe. Peut-elle progresser? Je n'en sais rien. Je ne sais pas. Je n'imagine pas en tout cas cette équipe aller. Je ne sais pas avec qui elle croise et comment dans le tableau ça pourra se terminer. Mais je ne sais pas.
Elle n'a pas progressé depuis que Carlo Ancelotti l'a prise en main. Il n'y a pas de raison qu'elle progresse.
Mais même si tu prends celle de 2022, qui au final ne perd que Copeno contre la Croatie. On est largement en dessous, là.
C'est bien supérieur en 2022. De toute façon, on n'est pas surpris. On les avait vus contre l'équipe de France supériorité numérique où ils avaient été déjà catastrophiques. Mais j'ai pas compris, moi, la compo de départ d'Ancelotti où il a voulu rapprocher Vinicius et Rafinha qui n'arrivaient pas à se trouver avec Paqueta qui jouait sur un côté. C'était un peu mieux avec les changements d'Ancelotti en deuxième mi-temps. Mais cette équipe-là, elle est pas fiable pour le très très haut niveau. Moi, je la vois pas compétitive. Il y a un assemblage de noms. Intéressant, notamment la charnière centrale devant, il peut avoir de la qualité. Il y a une densité sur le banc avec un Cunha qui peut rentrer, Martinelli. Il peut peut-être constituer une salade sur la durée de la compétition qui peut être intéressante. Mais je vois beaucoup.
Mais Martinelli jouerait où dans l'équipe finalement?
Je sais pas, sur le côté et recentrer un peu Rafinha.
Les côtés, normalement. En fait, je pensais que les côtés étaient bouclés dans cette équipe, tu vois.
Ou Vini en point, enfin Vini en 9,5 peut-être. Mais en tout cas, moi je vois beaucoup d'autres équipes, beaucoup trop d'équipes bien supérieures au Brésil et j'étais très déçu parce que même en arrachant ce match-là, parce qu'en deuxième mi-temps je les trouve quand même plus cohérents, mais il n'y a pas de volume d'occasion, il n'y a pas de temps fort, il n'y a pas de connexion entre les joueurs.
Il n'y a pas un mouvement collectif.
Exactement. Je trouve que c'est des fulgurances et au très très haut niveau, même si ça reste du football de sélection, ça ne suffira pas. Et comme l'a dit Daniel, il faudra montrer le film du Brésil champion du monde le 19 juillet. J'aimerais bien le voir, le DVD, envoyez-le-moi. Parce que je sais pas comment, quand tu vois que Carlo Ancelotti, il sélectionne Igor Thiago, mais je suis à la place d'R9, là. Je vais au petit four pendant toute la première mi-temps parce que, sincèrement, je veux pas le voir jouer au football. Mmh. Quand je vois João Pedro, j'espère que sa famille ou son entourage l'ont pas mis devant le match. Parce qu'il fait pas le même football que Igor Thiago. João Pedro,
Je sais pas comment on a pu se passer d'une attaque, João Pedro en 9. Rafinha à droite, Vinicius à gauche.
Et Rafinha, c'est Casper.
Est-ce que tu rejoins Daniel et Walid?
Je les rejoins complètement.
Vas-y, Younes.
Je les rejoins complètement, surtout sur Gabriel qu'on a vu très fébrile ce soir-là. Il a raté beaucoup de passes, d'intervention. Sur les côtés, pareil, les latéraux, ils m'ont pas impressionné du tout. Ils ont été plutôt mangés sur la première mi-temps. Au milieu de terrain, comme on l'a dit, en première mi-temps, c'était un milieu fantomatique. Et devant, il n'y a pas de connexion entre les joueurs de devant. Comme vous l'avez dit, l'attaquant, là, Thiago, il n'a rien à faire dans cette sélection. J'aurais préféré voir un Hendrick un peu plus faufolé, un peu plus fougueux que voir ce type d'attaquant au Brésil. Dans des autres sélections, peut-être que ça peut marcher, mais dans une iconique équipe nationale du Brésil, quand tu vois Ronaldo assis dans les tribunes, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fait ce joueur au Brésil?
Ce qu'on a vu sur les 25 premières minutes du Maroc, les sorties époustouflantes de Mazraoui, les passes, la façon de se donner le ballon, le jeu en mouvement de Unai,
la connexion
dont on a beaucoup parlé,
la connexion,
ce genre de mouvement là, ce genre de rapport au ballon, historiquement, sans l'enlever au Maroc qui a toujours eu également des techniciens dans son histoire, c'est le Brésil.
Mais c'est dit quoi, et Daniel, moi, ça, avant le match, je ne le vois plus du tout au milieu de terrain du Maroc.
Non, mais sur la première mi-temps, tu dis qui sont les Brésiliens? Et les Brésiliens, ils sont rouges.
Avant le match, je te le dis, le milieu de terrain, c'est tout Brésil. Je te l'ai dit avant le match.
Oui, bien sûr, je me souviens.
Il y a des joueurs qui sont très décevants. Quand même, moi, Bruno Guimarães, ça a été un joueur que j'ai toujours aimé.
Paqueta aussi sur la première mi-temps.
Même à Newcastle, Paqueta, il a été à l'envers complet.
Si le jeu doit reposer sur Paqueta.
Bien sûr, ça le drame. C'est que Paqueta est titulaire en équipe nationale. C'est un mec qui est très très loin de son meilleur niveau.
En même temps, peut-être qu'il a parié sur le fait qu'il soit pas bon ce soir. Oui.
Peut-être.
Si c'est dit
peut-être,
sur le nombre peut-être. De pertes de balles.
Mais Igor Thiago, c'est un canular. Parce que, attention, si sur la première occasion, ils se font soulever par le Maroc sur les 20 premières minutes, t'as une occasion qui tombe du ciel.
Normalement,
c'est son spot.
Je crois qu'il arrive même pas à la frapper.
Normalement, c'est son spot. C'est là où j'ai très très fort parce qu'il est athlétique. Parce qu'on a bien compris que les pieds, c'était une touche ou deux touches pour finir. Parce que sinon, il fallait pas combiner avec lui. Même ça, il sent pas le football. Mais c'est-à-dire que Igor Thiago, c'est quoi? C'est le JP Mateta un peu brésilien, quoi. C'est le joueur qui a mis des buts en première ligue, qui est un peu pivot, etc. Mais il n'y a pas que ça.
Il n'y a pas que ça. Ben, tu oublies un truc, c'est quand même que David Ancelotti va déménager à Lille et qu'il a besoin de bras, quand même, costaud.
Ah oui, d'accord.
Donc il est peut-être venu pour ça aussi.
Ok, oui.
22 buts, hein, quand même, cette saison.
Oui, avec Brentford, voilà.
C'est un mec qui score.
C'est le joueur qui a mis ça.
C'est pas de sa faute, c'est Ancelotti qui fait appel à lui et qui fait débuter ce soir.
Mais
personne n'a cité Carlo Ancelotti. J'ai l'impression que cet homme-là, on peut absolument pas l'égratigner. C'est son choix à lui.
Sur le match, pour moi, il réagit bien. Mais sa liste, on l'a dit, sa liste, elle est démagogique. On a dit que sa liste, on la comprenait pas sur João Pedro, qui, on l'a vu l'année dernière, quand même, João Pedro. Coupe du monde des clubs contre le PSG. Les gros rendez-vous, il aime ça, il a un football brésilien.
C'est pas une grande saison non plus, João Pedro.
Enfin, il a 15 buts en PL, ça reste un joueur.
Tu peux pas te passer d'un joueur pareil, c'est une anomalie totale. Et rien n'exclut, évidemment, que ça se termine en bouillie un peu l'aventure Ancelotti au Brésil, parce que c'est pas simple.
Il a prolongé, hein, quand même. Hein.
C'est pas simple.
Parce que là, il est bien là-bas, Caipirinha.
Il a prolongé. Tu crois que si ça se termine en 8e, en Saint-Match,
c'est terminé. Ils ont donné.
La prolongation, c'est terminé.
Attention, ça va leur coûter bonbon.
Il y a deux prolongations improbables ces derniers jours.
Petkovic et Ancelotti.
Absolument.
Encore une très belle gestion de la fédération. En fait, les mecs, ils n'ont pas encore acheté la voiture, mais ils payent. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés au rendez-vous, ils ont pas acheté la voiture, ils payent. On l'a pas encore vu, laissez-lui un petit peu de temps. On l'a vu sur la canne. Mais tu prolonges pas un mec avant d'avoir fait la compétition.
Petkovic a changé de look. Je trouve son nouveau look très intéressant.
Ok. Ah d'accord.
Il a un look un peu Danny Briand. Il ressemble à Danny Briand.
Il est pas impossible.
C'est quoi, t'es Christina Cordona, toi, maintenant? T'es sur W9, c'est quoi?
Ça fait 20 ans qu'il est sur look, t'as pas découvert ce soir.
Moi, je pense que ça peut changer le visage de l'Algérie.
Est-ce que les looks, vu que t'es un spécialiste, ont un impact sur les perfs?
Tout le temps.
Ah, donc on y va.
Ah, tu te souviens pas de...
Non.
Tu te souviens pas Mourinho costume et survêtement, la différence?
D'accord.
Tout avait changé.
Non, mais vraiment, toi qui es précis et factuel, il y a une vérité absolue ou c'est à la marge?
C'est une marge intéressante.
Bon, les gars, en tout cas, ce soir, pour résumer tout ça, on a deux confirmations que le Maroc est un candidat, en tout cas, un dernier carré, voire plus, et que le Brésil.
Candidat à nous montrer encore un match, calmez-vous.
Et le Brésil est le cinquième de la zone absolue en qualification mondiale. C'est devenu une sélection moyenne plus aujourd'hui, qui sur quelques coups de folie peut arriver à faire une demi-finale de mondial. Évaluation. On a parlé de Boadi. Côté marocain,
il leur faut le retour de Neymar là au Brésil. Il leur faut le médicament.
Qu'est-ce qu'on fait avec Neymar? C'est Haïti prochain match. On va le préserver quand même. Un petit peu.
Là, je sais pas, mais en tout
tu
cas,
sors, tu
on
sors.
Parlait de technique. Peut-être que physiquement, il sera pas au niveau, mais moi, j'ai quand même envie de voir ça. Cette équipe de mort-vivant là, quand même, parce qu'il y a une équipe de mort-vivant. On peut pas ramener un médecin là qui peut nous envoyer un Doliprane balistique, non?
Franchement, que Neymar peut changer ce visage là?
Mais franchement, ce qu'il a montré Paqueta à Guimarães, franchement, il pourrait pas faire pire dans tous les cas avec la connexion.
Pour l'instant, on est en train de parler d'un joueur qui tient pas debout, hein, donc.
Oui, voilà. Ça reste pour
jouer au foot, c'est quand même mieux d'être debout. Hein.
Vas-y, Younes.
Non, mais après, avec la connexion qu'il peut avoir avec Rafinha ou Vinicius, franchement, je préférais voir lui. Tu verrais pas tout le match, mais un bon 45-50 minutes, tu pourrais le voir, il pourrait te débloquer des situations ou voir un plus beau football pour le Brésil. Parce que ce qu'on a vu ce soir, c'était
pas fameux. Rafinha, c'est son cousin. Rafinha, c'est pas le Rafinha du Barça qu'on a vu. Moi, j'ai rien compris à son match. Parce que il va falloir en parler, mais bon, Vinicius, il a fait son match globalement à chaque fois qu'il avait le ballon, notamment sur la première mi-temps, c'était l'assurance vie du Brésil. Mais il y a Batman et Robin de l'autre côté. Rafinha, va falloir qu'il assume son statut quand même, parce que offensivement à chaque fois qu'il a eu le ballon, il a été emprunté. Mazraoui, il lui a tout fait. C'est pas normal qu'un joueur de ce statut là si on parle d'Igor Thiago, qui est un peu c'est le mec qui doit pas être là, qui est là, quoi. Mais Rafinha, par contre, c'est un mec top 10 ballon d'or, c'est un gros mec, quoi. C'est un gros joueur.
Qui est un joueur qui a été blessé longuement cette saison aussi, peut-être. Hein. Il n'a pas le même rythme, la même fréquence, la même constance que l'an dernier. Mazraoui, tu l'as cité à l'instant, Walid.
Quel match.
Younes, Mazraoui, exceptionnel. Son côté gauche. Et je rappelle que c'est un latéral droit au départ, qui joue à gauche parce que le flanc droit est pris par Achraf Hakimi. Younes.
Et le latéral droit qui devient un très bon arrière-gauche, c'est courant dans l'histoire du foot. C'est l'inverse qui n'existe pas.
Ouais, mais ça reste un droitier qui joue à gauche quand même.
Oui, mais c'est pas
Manu Amoros.
C'est un truc qui peut se faire. Mais bon, t'as raison. De toute façon, il est extraordinaire. Donc, vas-y Younes.
Ah ouais, non. Mais physiquement, il a mangé Rafinha. Il a commandé tout son couloir, que ce soit défensivement, offensivement. À un moment donné, même en première mi-temps, on le revoit revenir. Il avait 2 mètres de retard. Il revient sur l'attaquant. Il passe devant lui. Il récupère des ballons. Franchement, il a été, et avec le ballon, il est extraordinaire. C'est un joueur que j'aime beaucoup parce qu'il peut jouer à tous les postes. Il peut jouer à droite, à gauche.
C'est l'école néerlandaise.
Hein. Il est habile avec ses pieds.
Il a été meilleur qu'Hakimi ce soir.
Ah ouais,
mais défensivement, parce que le but, il vient d'Hakimi, le but.
C'est en premier, c'est pour ça.
Non, mais sur le but, c'est Hakimi. Regarde où il est, Hakimi, sur le but. Il est au milieu de terrain.
C'est Elanaoui qui reprend sa place. C'est coupé,
PSG, là. Ah, bah oui. Elanaoui, il reprend sa place. Il se fait manger sur une fête de frappe parce qu'il vient trop de loin. Et Hakimi, il est au milieu de terrain et il laisse partir Vinicius. C'est l'une des seules actions où Vinicius vraiment.
Mais Mazraoui, il faut le dire déjà.
Mazraoui.
Déjà, son intelligence de jeu, sa mentalité, c'est un joueur qui. Voilà, on l'avait vu à l'Ajax ou à Manchester United, même au Bayern Munich. Mais à chaque fois qu'il est avec le Maroc, moi, je trouve que sa Coupe du Monde 2022 avait été monstrueuse. Sa CAN aussi, elle a été monstrueuse. C'est un joueur qui te règle énormément de problèmes parce que pour moi, c'est un latéral milieu de terrain. Un peu comme Hakimi, ce qu'il fait avec le Paris Saint-Germain athlétiquement, mais lui, moi, je trouve que techniquement, il est au-dessus d'Hakimi. Et on l'a encore vu aujourd'hui, c'est qu'il est capable de s'intégrer avec des relances très très basses, comme dans une défense à 3. Et sur la première mi-temps, le but, il vient de sa part. Le nombre de fois où il arrive à annihiler le pressing catastrophique du Brésil, ça a été ultra précieux pour le projet de jeu de Wabi. Et c'est vrai que pour moi, avec Boadi, c'est le deuxième joueur à ressortir du côté du Maroc.
Bon. On a un œil également, je le dis, sur un événement sportif important, la finale NBA. C'est une folie ici à New York, vous le savez, ça a démarré depuis 4 minutes entre les New York Knicks et les San Antonio Spurs de Wembanyama. Je sais pas si Younes t'intéresse à la NBA également, à cette finale-là. En tout cas, sachez que si New York gagne ce soir, New York sera sacré champion 2026 de cette saison.
Et New York prendra feu ce soir.
Et il faudra peut-être éviter Manhattan, hein, parce que ça va être un sacré boxon si ça arrive 53 ans après le dernier titre imaginé. Côté brésilien, on a commencé à balayer un peu les individualités. Vinicius, on n'a pas trop prolongé sur lui. Il a réussi, il a apporté une maîtrise technique, certes, mais globalement, est-ce qu'on n'est pas un peu déçu par son rendement, quoi, qui est un peu dans la lignée de ce qu'il fait cette saison au Real Madrid, finalement.
En deuxième mi-temps, c'était moins bien. Il y a eu du déchet. Hakimi aussi s'est remis à l'endroit défensivement. Mais sur la première mi-temps, heureusement qu'il est là. Et il se passe un truc dès qu'il a le ballon. Il est esselé. Maintenant, moi, c'est un football qui
on doit attendre plus de lui. Non, quand
on attendre plus que de lui, c'est quoi? Il faut qu'il mette triplé contre le Maroc. Sûr, dès qu'il a le ballon, il y a 5 mètres.
Pas forcément
autour.
De but. Je parle de.
Enfin, il y a des prises à deux sur lui. Franchement, c'est quand même.
Non, mais de toute façon, dans le désert proposé par le Brésil en termes de jeu, oui. Bon, tu te reposes sur l'individualité. Donc, c'est lui. Moi, c'est pas tellement le football qui me plaît. À partir du moment où il met un but. Dans un match qui te permet de pas perdre, parce que sinon je vois pas bien comment ils auraient pu le mettre, le but. Bon, ok.
En delà du but, c'est lui qui donne la passe D pour Thiago. Hein.
Tu peux souligner sa prestation, parce que sur le côté, quand il accélère, mais c'est un joueur qui joue tout seul. C'est un alone player, quoi. Ok, très bien. Tu fais la diff. Oui, t'es un joueur décisif. Incontestablement, t'es un joueur décisif. C'est pas le genre de joueur qui me fait triper, mais je peux pas dire que c'est pas un joueur décisif.
Après, moi, je pense qu'il est plus collectif quand il y a des joueurs autour qui sont dans la connexion. Là, aujourd'hui, il a été obligé dans ce désert de prendre ses responsabilités. Oui. Et pour le coup, moi, je l'attendais au tournant dans cette compétition et je continue de l'attendre au tournant parce qu'avec le Brésil, ça a souvent été un joueur quelconque.
Ça doit être sa Coupe du Monde.
Oui, oui. Et là, pour le coup, il fait partie des tops du Brésil. Je peux pas critiquer Vinicius sur ce match-là.
Younes.
Non, bien sûr.
Ah non, il est carrément. Pour moi, il est carrément esselé. C'est le leader d'attaque, c'est le leader technique de cette équipe. On lui donne le ballon, il essaye de faire la différence. Sur ce match, ça a été ça. En première mi-temps, c'est lui qui débloque la situation pour le Brésil. Comme il a dit Walid, il fait une passe D pour Thiago qui la manque complètement. À part lui, je ne sais pas qui d'autre aurait pu faire la différence ce soir. Il n'a pas cette connexion au milieu de terrain avec lui en 10 où il peut faire des 1-2 ou attirer quelqu'un dans l'axe. Il est souvent pris en tenaille à 2, à 3 ou comme tu as dit Walid, en deuxième mi-temps, Hakimi se remet à l'endroit où il restait un peu plus.
Et
le but, il est extraordinaire, bien sûr.
Le but est très mal au Maroc.
Défensivement, il fait les efforts, il revient, il est combatif. Et moi, j'aime bien ce joueur. Ça change un peu du Real des fois où il fait moins les efforts. Mais là, il a fait des efforts défensivement aussi. Il a aidé le Brésil.
Non mais
parce qu'on parlait du cooling break, mais il y a un cooling break pour le Maroc. C'est le but de Vinicius aussi, parce que celui-là, il fait très très mal.
Mais
c'est un deuxième cooling break.
Après le cooling break. Après le temps mort pris par Carlo Ancelotti.
C'est un deuxième cooling break dans ce nouveau foot là qui moi me plaît pas du tout. Mais à ce moment-là, on est beaucoup plus proche du 2-0 marocain que du 1 partout brésilien. Et on se dit, parce qu'il y a notamment Brahim Diaz, Hakimi, qui joue mal les coups à ce moment-là. Et là, tu te dis. Heureusement que ce but arrive pour
justement,
le Brésil.
Je voulais revenir à Brahim Diaz. Posons-nous, bien sûr, on a suivi sa CAN, on a beaucoup parlé de sa finale, notamment la Panenka, l'histoire, la narration. Allait-il se réconcilier avec certains supporters du Maroc? On est toujours dans le même cas de figure avec ce joueur-là, capable de fulgurance, mais de disparaître pendant une demi-heure ensuite. Il n'y a pas de constance sur 90 minutes. Est-ce que c'est comme ça que vous qualifierez son match ce soir, Younes? Daniel, vas-y.
Obligatoirement, parce que déjà, il sort tôt. Alors, on peut dire peut-être trop tôt. Je suis d'accord avec cette idée. T'es bien obligé de mettre en avant sa passe décisive sur le but marocain.
Ouais,
parce que,
très belle passe.
Parce que l'action, elle est magnifique. Elle démarre avec Mazraoui, elle arrive à Brahim Diaz, mais Brahim Diaz, il fait plein axe, une passe lumineuse qui est bien exploitée ensuite. Donc ça, t'es obligé de mettre à son crédit. Dans la foulée, dans la très bonne période marocaine, il était souvent dans le coup, mais parce qu'il y a un mais, je le trouvais un peu brouillon dans la dernière, dans le dernier mouvement. Est-ce que je frappe ou est-ce que je donne? Et son entente avec Hakimi était pas toujours très juste en fait. C'était un coup, je lui donne pas bien. Je me sers de toi pour frapper, mais ma frappe elle est pas bien. Et bon, voilà, c'était un petit peu frustrant. Voilà, s'il y a un mot que je dois dire de lui, parce que j'attends de lui, parce que je l'aime bien. C'est un joueur qui est technique, qui est agréable. Mais il me laisse un petit goût.
Moi, je suis d'accord avec Daniel. C'est que il reste quand même, il rend quand même une copie satisfaisante. Maintenant, dans la frustration marocaine de ne pas avoir été chercher ce deuxième but, je trouve qu'après le 1-0, il y a pas mal de coups qui jouent moins bien. Je trouve qu'il joué, force le tir.
Après, si ça doit être un joueur patron, il doit jouer plus dans un match quand même.
Oui.
Tu peux pas jouer aussi peu, quoi.
Après, moi, je pense que c'est
pas un joueur patron.
C'est circonstanciel au match. C'est circonstanciel au match 1, je pense moi. Je pense qu'il sort.
Sorti.
Je pense qu'il sort pas sur une demi-finale ou sur un quart de finale. Il sort pas aussitôt. Bien sûr. Avec Hakimi, c'est pour ça qu'en fait, il y a une marge de progression de dingue du côté du Maroc. C'est que pour moi, offensivement, Hakimi et Diaz ont une vraie marge de progression sur la compétition parce qu'ils ont saccagé des 3 contre 2. Ils ont fait des mauvais choix. Quand ils ont préféré la frappe à la passe, à la combinaison.
À un moment, il peut décaler, Brahim, Hakimi, c'est vrai.
Bon. Voilà. Que doit faire Ancelotti pour son milieu?
Sortir Casemiro déjà.
Alors, Casemiro.
Si Casemiro, il peut aller sur le banc.
Le conseil est terrible.
Ouais, avec tout le respect que j'ai pour sa carrière, qui est un super joueur, un joueur incroyable.
Donc, Fabinho pour Casemiro?
Ouais, même si, attention, je te dis pas que ça va garantir un Real Madrid.
Et on n'est pas au grand Fabinho, grande époque de Liverpool. Hein.
Fabinho, il a apporté.
Mais Fabinho, saoudien quand même.
Fabinho, il a apporté en deuxième mi-temps, mais faudrait voir aussi ce qu'il aurait fait dans le temps fort marocain. Faut mettre en perspective.
Contribuer à le contrecarrer, c'est encore peut-être.
Mais Fabinho, il a été bien en deuxième mi-temps, mais il était en chaussons, hein. C'est-à-dire qu'il était sur un rythme. C'est pas la fibre, hein. C'était la DSL, hein, footballistique. Donc moi, par contre, Casemiro, on l'avait vu contre la France sur les transitions, c'est une catastrophe. Ah, il s'est fini, c'est terminé. C'est malheureusement, il s'est pris le mur du football. Et pour le coup, va falloir faire un vrai choix là-dessus.
D'ailleurs. Que le Brésil soit obligé de se reposer sur lui et son entrée de la souligner comme ça alors que c'est quelqu'un dont les plus belles années sont très loin derrière maintenant et qui est allé un peu se reposer dans un championnat inférieur, c'est aussi dire que le Brésil n'a pas de réservoir.
Ce poste-là,
c'est un constat qui est dur.
Fabinho Prime et Casemiro Prime, tu disais purée. Ils avaient même Fernandinho Prime et tu disais mais attendez les gars, comment ils vont faire? Ils ont 3-6 de très très haut niveau.
La folie.
Là aujourd'hui, ils ont pas le réservoir. Bon, il y a Renato Sanchez là qui est rentré là que je connaissais pas là. Il y a ici un joueur un peu mobile, intéressant. Je connaissais pas du tout.
Danilo Santos.
Mais il va falloir faire des choix. Il va falloir faire des choix forts. Mais c'est vrai que ce milieu de terrain là, je sais pas où tu vas du côté du.
À l'arrivée, c'est finalement un bon point pris par les deux sélections. Par le Brésil et le Maroc.
Bah, il sert la
place. T'as raison.
Ils se checkent à la fin du match.
D'emplanter le plus contre l'Écosse et Haïti pour se partager la première ou la deuxième place, bien sûr, pour ces deux équipes. Younes. Merci, c'était un plaisir de t'avoir avec nous.
Merci à vous.
Tu seras avec nous à chaque fois après les matchs du Maroc. À très vite sur RMC. Daniel, Walid, merci.
Ciao.
On va se poser nous. D'abord, restez là à l'écoute d'RMC jusqu'à 5h du matin. Walid est là. Il aura quand même un œil sur le match 5. Oui. Il a crié toute la journée Let's go Spurs.
Il ne faut pas que Nico Jamin voit ce dernier match au Madison Garden.
Et pourquoi?
Hein?
Là, tu es en train de révéler la vraie personne que tu es.
C'est-à-dire
une mauvaise personne.
Mais parce que malheureusement, tu ne peux pas en fait être heureux sans moi.
Ah bon?
Oui.
Comment j'ai vécu avant? C'est vrai, j'étais malheureux.
Non, on a besoin de partager des moments ensemble.
Bon, en tout cas, le match, on va le suivre en même temps que cette Écosse-Haïti qui t'excite beaucoup, je crois.
Ah oui?
Ouais, tu vas le regarder, oui, avec intérêt, parce que c'est un match de Coupe du Monde.
Exactement.
Et finalement, il n'y a pas de mauvais match en Coupe du Monde.
Exactement.
Il y a toujours un intérêt et de l'enjeu également.
Oui, on va voir ce que voit Haïti.
Karine Galli arrive. Maxime Chano, le New Yorkais, hein. Pas l'Ajaxien, ni le
Luxembourgeois.
Qui vient de se poser. Karine prend ma place. Amusez-vous bien. La NBA, la Coupe du Monde. Prolongement du débrief Brésil-Maroc au programme. Les infos équipe de France. La nuit continue sur RMC et sur YouTube et sur Afterfoot TV. Bonne soirée à tous.
RMC After Live. Intégrale Coupe du Monde.